Bonsoir, la CENI a lancé ce jeudi 22 novembre le début de la campagne électorale sur toute l'étendue de la République. Pendant ce temps, la centrale électorale poursuit l'opération de déploiement des kits électoraux. Cependant, il y a des candidats qui demandent à la CENI de reporter les prochaines élections. Nous avons dans cette émission J.R. Mokolo, le journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Bonsoir J.R. Mokolo.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Nikofay Mbikayi, journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde et top média paraissant à Kinshasa. Bonsoir Nikofay Mbikayi.
Bonsoir estimé.
Et Dimanche Kamate, journaliste et reporter à la radio-télévision Mungano à Oicha, émettant de Beni au Nord Kivu. Bonsoir Dimanche Kamate.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir aux amis co-débatteurs, bonsoir à tous les auditeurs des Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder ce débat, on va voir comment les journaux ont traité l'actualité de la semaine. On écoute donc Alain Hirung dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. Le lancement de la campagne électorale, le retour de Martin Fayoulou, candidat commun de l'opposition, et la présentation du programme d'Emmanuel Ramazani Shadary ont dominé l'actualité cette semaine. À l'hémicycle du Palais du Peuple, devant les députés, sénateurs et autres parties prenantes au processus électoral, le chef de la commission électorale, Corneille Nanga, a déclaré en peu de mots ouvertes la campagne électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, rapporte la prospérité. Corneille Nanga, président de la CENI s'est appesanti sur les accréditations des témoins, de partis politiques, des journalistes ainsi que des observateurs électoraux. Complète actualité.cd. Forum des As s'intéresse au retour du candidat commun de l'opposition Martin Fayoulou, porté en triomphe par les partisans de la plateforme Lamouka. Martin Fayoulou a eu droit à un banc de foule qui conforte désormais son statut de sérieux prétendant au trône présidentiel, fait remarquer le potentiel. L'avenir de son côté se base sur des chiffres officiels et indique que seulement 2800 militants sont venus accueillir Fayoulou. Le journal présente Martin Fayoulou comme le candidat de la contestation, choisi dans le but de prendre le pouvoir à travers un chaos organisé. 7 sur 7.cd renseigne pour sa part qu'un meeting improvisé a été organisé sur l'esplanade du boulevard Triomphal au retour de Martin Fayoulou. Le candidat de la coalition Lamouka a condamné les tueries de deux étudiants de l'UNIKIN tombés sous les balles de la police alors qu'il revendiquait la reprise des cours après la grève des professeurs. Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun pour le Congo FCC à la présidentielle, aligne un budget évalué à 86 milliards de dollars échelonné sur 5 ans. Il a insisté sur le fait que le vrai défi n'est pas celui de l'inexistence des ressources financières, mais la capacité du gouvernement congolais à les mobiliser et à les canaliser vers le trésor public indique l'avenir. Casinfo.ca ajoute que ce programme est fondé sur 4 axes, à savoir le renforcement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national et la bonne gouvernance, la création d'une économie dynamique et compétitive, la lutte contre la pauvreté et la réaffirmation du rôle géostratégique de l'État. Il s'investira également dans tout ce qui, normalement, concerne un État moderne. L'amélioration du social, l'économie et les questions politiques et sécuritaires, mentionne-t-il, n'échapperont pas à l'ordre des priorités de ces priorités, complète la prospérité. Pour l'agence congolaise de presse, le candidat Shadary se focalise sur la valorisation de l'homme congolais dans son programme d'action. C'est donc un pari de la dignité humaine que se fixe Emmanuel Ramazani Shadary, note Forum des As. Terminons par la question de la machine à voter qui suscite encore des réactions dans le chef des candidats à la présidentielle. C'est notamment le cas de Seth Kikuni qui pense qu'à défaut d'un consensus, la CENI devrait reporter les élections. Seth Kikuni, 37 ans, le premier à faire acte de candidature à la présidentielle, demande donc à la Commission électorale nationale indépendante CENI de reporter les élections prévues le 23 décembre 2018, informe actualité.cd.
Merci à vous Alain Hirung, J.R. Mokolo, journaliste et producteur du magazine d'information à CCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. À part le processus électoral qui va constituer l'objet du débat de ce soir, quelle est l'actualité de la semaine que vous comptez commenter ce soir?
Oui, moi, je voudrais revenir sur la répression sanglante des étudiants de l'Université de Kinshasa qui réclamaient justement le fait de pouvoir reprendre les enseignements parce que leurs enseignants sont en grève pendant plusieurs mois et que l'année académique n'est toujours pas clôturée, pendant qu'ailleurs ils ont déjà pratiquement repris les cours pour une nouvelle année académique. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que vraiment nos enfants, nos jeunes gens qui étudient à l'université de Kinshasa, qui sont allés apprendre pour que demain ils puissent assurer l'avenir de ce pays, est-ce qu'ils méritaient vraiment de mourir, tout simplement parce qu'ils ont voulu réclamer leurs droits aux études. Et deuxièmement, je voudrais quand même revenir sur le comportement de la police. Le chef de la police de la ville de Kinshasa dit que non, on a interdit l'usage de balles réelles à l'université de Kinshasa, disons dans les campus universitaires. Mais comment se fait-il que les policiers qui étaient déployés là-bas avaient des balles réelles? Qui leur a mis ces balles réelles à disposition? Est-ce que faut-il seulement s'arrêter, par exemple, aux policiers qui ont été arrêtés, qui vont être jugés pour avoir tiré à balles réelles sur ces étudiants? Ou bien il faut quand même suivre la hiérarchie de la police pour voir qui est responsable de la dotation de ces policiers des balles réelles qui ont tué nos enfants, nos jeunes gens qui étudient à l'université de Kinshasa. Voilà un peu la problématique qui m'a tiqué. Et je me suis rendu compte que la police, en tout cas, ne change pas de comportement parce que nous avons vu à l'arrivée de Martin Fayoulou, des gaz lacrymogènes ont été balancés sur la foule, provoquant la panique et il y a même des blessés. Il semble même des tirs à balles réelles aussi ont été entendus. Donc je ne sais pas, cette problématique de la démilitarisation de notre police doit en tout cas être prise en charge par de nouvelles autorités qui seront issues des prochaines élections parce qu'on ne peut pas continuer à être un abattoir d'êtres humains. Chaque fois que quelqu'un bouge pour manifester, on doit tirer sur lui, ce n'est pas normal.
Merci Nico Faye Mikaï, journaliste collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. C'est quoi l'actualité que vous commentez ce soir?
Oui, je lance cet appel à l'autorité de la ville de Kinshasa. Depuis un temps, je l'ai constaté la semaine passée, que certains taximens véreux ont eu à majorer le prix de la course Victoire Boulevard. Aujourd'hui, le coût est passé de 500 francs à 1000 francs. Cela se passe sous la barbe de l'autorité politique administrative. C'est inacceptable. Vous savez, nous ne pouvons pas nous mettre à nous chamailler tout le temps avec le taximen, mais il appartient à l'autorité d'ouvrir l'œil et les bons, parce que pour une distance comme celle de Victoire Boulevard, payer 1000 francs, c'est beaucoup. Mais compte tenu aussi de l'urgence ou bien de la sérénité à laquelle la personne est confrontée, on est tenu de le faire. Mais nous nous remettons à l'autorité politico-administrative de voir cette affaire. Et secundo, il y a aussi la régie des eaux qui a extrapolé dans le taux de facturation mensuelle. On ne peut pas comprendre qu'un ménage dans la ville de Kinshasa moyen arrive à payer 80 ou bien 85 000 francs congolais pour seule consommation de l'eau. Mais s'il faut payer ne serait-ce que pour l'eau 80-85 000 francs le mois, alors s'il faut maintenant ajouter celle de la SNEL, or nous savons que le salaire moyen d'un Congolais varie de 85 à 100 000 francs congolais. C'est-à-dire le fonctionnaire, bien le travailleur congolais,
ne travaille que pour payer
la facture de la régie des eaux. Parce que si vous comparez les deux factures aujourd'hui, celle de la régie des eaux est plus élevée par rapport à celle de la SNEL. Or la régie des eaux reçoit plus de dons, reçoit plus à beaucoup de partenaires que la SNEL, mais qu'est-ce qui fait que la SNEL qui engage beaucoup de dépenses, que ses factures aient un taux moins élevé par rapport à celui de la régie des eaux? Nous estimons que mon appel ne va pas tomber dans les deux heures.
Mais il ne faut pas oublier aussi que la SNEL aussi exagère, n'est-ce pas?
Non, je ne dis pas que non, le taux de facturation de la SNEL est acceptable. Mais si vous comparez les deux taux de facturation entre la régie des eaux et la SNEL, en tout cas, l'arnaque se trouve du côté de la régie des eaux. Merci. C'est une situation inacceptable dans un pays entouré et entre-déchiré des cours d'eau qu'un ménage dans la ville de Kinshasa arrive à débourser 80 000 francs
merci
congolais le mois.
Merci. Dimanche Kamate, journaliste et reporter à la radio TV Mungano au Tchad, émettant des Beni au Nord Kivu. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Beni au Nord Kivu?
Oui, pour le moment, l'actualité qui domine la commune rurale d'Ovitcha en particulier, la région de Beni en général, ce sont les attaques répétitives des présumés rebelles de l'ADF, des attaques qui causent les départs massifs des populations, parce que pour le moment, depuis l'endroit où je suis en train d'intervenir en direct de la radio de la paix, je me trouve dans une région où il n'y a personne, c'est déjà vidé. Alors consécutivement, ces attaques répétitives des ADF, les habitants ont déjà jugé bon de fuir dans des endroits censés ou estimés sécurisés. Et donc, la situation est dominée par la dégradation de la situation sécuritaire. Et consécutivement à cela, il y a plus de mois que les activités scolaires ne sont pas en train de se dérouler. Cela est dû, comme je le disais, à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Beni. Et s'il faut aller plus loin, suite à cela, il y a aussi hausse du prix des litres d'essence et c'est la population qui continue toujours à pâtir parce qu'auparavant un litre d'essence est vendu à 1800 francs congolais mais aujourd'hui le prix a pris de la faveur au lieu qu'un litre se vende à 1800 un litre est en train de se vendre à 2000 francs congolais et donc de manière ramassée voilà la situation qui prévaut à ces jours dans la région de Beni.
Merci. Un autre thème de ce soir, le président de la CENI a lancé officiellement le début de la campagne électorale. Elle a démarré ce jeudi 22 novembre au cours de la dernière réunion du comité des liaisons de la centrale électorale avec les mandataires des partis et des groupements politiques mercredi dernier au Palais du Peuple. Corneille Nanga a présenté l'état des lieux du processus électoral, les défis juridiques, politiques, sécuritaires, financiers et logistiques qui ne constituent pas d'obstacle à la tenue des prochains scrutins. Selon Nanga, tous les éléments sont bien réunis pour organiser l'élection présidentielle, les législatives nationales et provinciales le 23 décembre. Reportage de Jeff Ngoy.
Le lancement officiel de la campagne électorale qui devra commencer exactement à partir de minuit juste sur l'ensemble du territoire national pour les trois scrutins présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux.
Plus de 40 millions d'électeurs sont attendus à ces scrutins. Sur 105 257 machines à voter, 98 000 sont déjà déployées partout au pays et 22 000 sont arrivées. Sous le plan logistique et financier, la centrale électorale n'a pas d'inquiétude et continue de faire confiance au gouvernement qui remplit son devoir à ce sujet, selon le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
Outre l'argent pour la révision du fichier, outre l'argent pour acheter toute cette cargaison que j'appelle la quinquérie électorale, c'est le gouvernement qui a financé celle. Et tout le monde a vu 150 camions supplémentaires ajoutés sur les 171 qui viennent d'arriver à Matadi, achetés à Dubaï. Le gouvernement vient de mettre des avions pour nous dépanner dans des zones d'accès difficiles.
La CENI pense que le défi sécuritaire sera rapidement surmonté à Beni pour que les élections se passent dans cette partie est du pays en toute quiétude.
Merci à vous, Jeff Ngoy, Gérard Mokolo. La campagne est déjà lancée. Et comment, à votre avis, s'annonce cette campagne qui a débuté ce jeudi 22 novembre?
Oui, je note que cette campagne, en tout cas, va se passer sur fond d'insécurité à l'est du pays. Notre confrère Dimanche Kamate nous a dit par exemple qu'à Oicha, là où il se trouve, la cité est pratiquement, disons, débarrassée de toute sa population parce que les gens sont enfouis l'insécurité. Et ça se passe aussi sur fond d'intolérance. Nous apprenons par exemple que déjà la veille même du démarrage de la campagne électorale, il y a eu 3 militants du PPRD qui ont été décapités dans les Kassai, donc c'est déjà un mauvais signe. Et nous constatons aussi que cette campagne, en tout cas, va se dérouler sur fond des contestations de la machine à voter, du fichier électoral. Et nous notons aussi qu'il y aura, en tout cas, il y a un déséquilibre entre les parties prenantes. Vous vous rendez compte, par exemple, que ceux qui sont au pouvoir, bon, ils ont pratiquement toutes les institutions à leur disposition, ils ont tous les moyens de l'État. Et de l'autre côté, bon, ce sont des partis d'opposition qui sont dépourvus des moyens, qui vont s'affronter, donc il y aura un déséquilibre des moyens. Et nous notons aussi, par exemple, que même la communication des responsables de la Commission électorale nationale indépendante ne rassure pas, ne garantit pas une campagne électorale apaisée, parce que j'ai, par exemple, suivi le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui était invité dans une activité organisée par l'Association congolaise pour l'accès à la justice à CAJ, dit, par exemple, que les consensus ne se retrouvent pas dans la Constitution et que les élections apaisées n'existent pas, parce que les élections sont, en tout cas, pour lui, par définition, un moment de compétition, un moment d'affrontement, et que pour lui, l'inclusivité n'existe pas. Donc, il ne faut même pas compter sur la CENI pour que tout le monde soit mis sur les pieds d'égalité. Et je noterai aussi, par exemple, pour cette campagne, la problématique d'accès à tous les acteurs dans les médias officiels, par exemple. Vous allez vous rendre compte que la télévision nationale congolaise, qui fonctionne grâce aux impôts payés par tous les Congolais, je dis, les Congolais qui sont de l'opposition, qui sont de la majorité de la société civile, mais malheureusement, cet instrument de communication de l'État, oui, très rapidement, est pratiquement confisqué par une seule famille politique et ça pose un énorme problème dans la campagne électorale. Donc, c'est pas une bonne chose pour la suite de ces procès électoraux.
Nico Faimikai, tout en rappelant les différents défis à relever, notamment les défis juridiques, politiques, sécuritaires, financiers et logistiques, le président de la CENI rassure que ces défis ne constituent pas d'obstacle à la tenue des prochains scrutins. Et donc, plus rien n'empêchera la CENI à organiser les élections du 23 décembre prochain.
Oui, merci beaucoup, estimé. Je me dis que je suis l'homme, le Congolais le plus heureux.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce que quand moi je dis à mon peuple que nous devons aller aux élections, que la seule possibilité d'atteindre l'alternance au Congo, le seul mécanisme pouvant nous amener au changement, c'était les élections. Beaucoup ne m'ont pas cru. Beaucoup m'ont accès de tous les mots. Ils étaient encore dans le mensonge de plan B. Et aujourd'hui, je pose la question au CLC et à l'Église catholique qui nous ont promis le plan B. Qu'ils arrivent quand même à nous dire où est-ce qu'ils en ont avec leur plan B.
Et donc, vous voulez...
Silence radio.
Et donc, s'il faut revenir à la question, en dépit de tous les défis qui ont été évoqués par Nangaa, plus rien ne pourra empêcher Nangaa à organiser des élections.
J'en viens, parce que le fait par nous, lorsque les gens se mettent sur la place publique, mentent la population, et que nous n'amplifions pas, que nous ne rappelons pas à notre population qu'on vous avait dit ceci, mais où est-ce qu'on en est? Nous n'allons pas avancer. Il faut qu'on arrive au moins à assainir l'espace politique. Lorsque les leaders disent à la population que nous allons faire ceci, qu'ils aient quand même l'obligation de dire à la population, nous vous avons promis ceci, voilà là où on en est. Néanmoins, j'ai pris le courage de dire que la seule possibilité d'atteindre l'alternance, c'est le changement. C'est pour cette raison-là. Je n'avais jamais été d'accord avec la logique de dialogue. C'est pour cela que j'avais soutenu le gouvernement qui est en place, dirigé par Maître Bino Tshibala, pour dire que le gouvernement, il est déjà là, allons aux élections. Beaucoup n'ont pas cru. Aujourd'hui, c'est jour J plus 1 pour la campagne, et jour J moins 31 jours pour les élections. Est-ce que doit-on encore chercher des prétextes? Je ne pense pas. Défi ou pas? Toute vie humaine est toujours entachée d'ambition. Mais néanmoins, dès lors qu'il y a une volonté volontariste dans le chef du gouvernement, aujourd'hui, moi je pense que s'il pouvait y avoir des problèmes ou bien des prétextes, cela pouvait provenir du gouvernement et de la CENI. Mais dès lors que le gouvernement dirigé par l'avocat Tshibala vous rassure que nous allons financer, la CENI qui organise l'élection vous rassure qu'il y aura les élections, est-ce qu'il y a encore lié de pathogènes?
Merci,
je
dimanche.
Pense que devons aller aux élections.
Merci, dimanche Kamate. En dépit des assurances de la CENI, il y a des candidats qui restent sceptiques quant à la capacité, n'est-ce pas, de la centrale électorale de détenir les élections le 23 décembre prochain. Il y en a même qui vont jusqu'à demander à la CENI de reporter carrément ces élections. Comment vous expliquez ce scepticisme?
Oui, monsieur Guy Maté, pour le moment, il est en tout cas difficile de dire que ces élections vont se passer comme il faut dans la région de Béni, parce que juste dans mon liminaire, quand j'ai commencé à présenter mon introduction, dans la région de Béni, les candidats députés provinciaux ou nationaux se sont déjà retrouvés dans une ambivalence. Ils sont en train de se poser plusieurs questions. Comment leur campagne va se passer? Est-ce qu'ils vont se retrouver en face des gens qui vont les écouter? Est-ce que vraiment la région de Béni est-elle concernée par ces élections? Autant de questions que les candidats députés nationaux et provinciaux sont en train de se poser pour le moment. Pour ne pas passer par quatre chemins, à commencer par la ville de Béni, où celle, la partie ouest, semble vivable pour le moment. À ma vie, c'est dans les gouvernements Batakibaou, où seulement la barrière, quelques couragés sont en train de supporter la souffrance là-bas, sans aucune assistance. À Ouïcha, Moukoko, Maïmoya, Kokola, Eringeti, Kainama, c'est le pire qui est aussi vécu. Alors, à l'allure où vont les choses, nous sommes en train de réfléchir autrement. Est-ce que la région de Béni sera-t-elle concernée aussi par ces élections? Parce que d'après l'observation ou d'après les enquêtes que nous sommes en train de mener, c'est que certains candidats sont en train de déplacer leurs effigies, leurs photos sur des murs de maisons qui sont déjà abandonnées. Et on se demande où cette campagne sera-t-elle menée? Où est-ce que ces candidats vont mener leur campagne? Est-ce qu'ils auront des gens qui vont les écouter? Ou peut-être il faut demander au gouvernement de sécuriser d'abord la région pour que les candidats de la place ou de la région puissent aussi bien mener leur campagne. Donc autant de questions que nous sommes en train de nous poser. Mais étant donné que les élections étaient déjà ressenties par la population, on aurait d'abord souhaité qu'il y ait sécurisation. Ou si peut-être le gouvernement peut créer un mécanisme du vote par dérogation, c'est-à-dire permettre aux personnes qui ont déjà fui de voter où ils sont pour le moment. Cela peut par exemple faciliter à la population ou aux habitants qui ont déjà fui la tâche, parce qu'au moins le besoin de l'alternance, c'est de ce qui est ressenti par la population.
Merci. C'est donc parti pour un mois de campagne électorale en République démocratique du Congo. D'après le calendrier électoral du 22 novembre au 21 décembre 2018, les 21 candidats à la présidentielle, 15 355 candidats députés nationaux et plus de 19 000 candidats députés provinciaux vont sillonner les pays. Objectif, vendre leur projet de société en vue d'être élus. Une campagne qui s'annonce ardue au vu des multiples défis qui attendent les candidats. Jacques-Yves Molima pour les reportages.
Le premier défi, c'est l'accès dans tous les coins et recoins de la RDC, dont les uns sont en proie non seulement à l'insécurité, mais également au manque d'infrastructures routières. Si à Kinshasa, les candidats ont la facilité d'atteindre tous les coins, ça ne sera pas le cas pour les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri ou du Kasaï, par exemple, où plusieurs coins sont en proie à l'insécurité. Dans le Kwango ou Kwilu, plusieurs circonscriptions électorales sont enclavées, les infrastructures routières faisant défaut. En fait, la RDC, c'est plus de 2 345 000 km² de superficie avec 26 provinces. 26 provinces, c'est aussi 38 villes, 145 territoires et plus de 5 000 groupements. Le territoire national entier étant la circonscription électorale pour les 21 candidats présidents, ces derniers ont donc 30 jours pour atteindre tout le pays. De même, les 15 355 candidats députés nationaux et plus de 19 000 candidats provinciaux devraient se rivaliser d'ardeur dans leurs circonscriptions respectives pour tenter de briguer les 500 sièges à l'Assemblée nationale. Ce premier défi est lié au second, à savoir les moyens financiers et logistiques pour atteindre tous les coins, battre campagne en RDC, exiger des avions, des hélicos, des véhicules, des motos, des hors-bord, des pirogues, même des vélos, pour atteindre ses potentiels électeurs partout où ils se trouvent. Et ce n'est pas tout. Les regroupements politiques devraient non seulement accréditer des milliers de témoins, mais également les former, les outiller et surtout les motiver.
Merci à vous, Jacques-Yves Molima, J.R. Mokolo. Je rappelle que vous êtes journaliste et producteur du magazine d'information ACCTV, une chaîne émettant de Kinshasa. Les difficultés, Jacques-Yves vient de les relever, les difficultés pour les différents candidats d'accéder à tous les coins de la RDC. Est-ce que cela ne va pas gêner la campagne de certains candidats?
Oui, un petit mot sur ce que Nikonfa Mbikaï a dit. Je voudrais quand même l'inviter un peu à la modestie, de ne pas croire qu'il y aura élection parce que lui, à travers les médias, l'a dit ou répété mille fois. il y aura élection parce que les calendriers électoraux conçus par la CENI devraient être respectés, qu'il y a eu pression, même sur le plan international, pour que les élections se tiennent, en tout cas la date est échue. Revenons à ces défis-là.
Pour certains candidats.
Ça démontre que notre pays, malgré tout ce que nous avons eu comme un projet, 5 chantiers, révolution de la modernité, dont ce pays n'est pas en tout cas construit, et que sur le plan des infrastructures, ça va avoir en tout cas énormément posé problème pour même le déploiement de tous les matériels électoraux par la CENI à travers la logistique de l'armée, et même pour les candidats aussi de pouvoir rejoindre pratiquement tous les circonscriptions électorales. Et puis il y a aussi un autre problème, bon, les candidats par exemple peuvent bel et bien avoir des avions comme les candidats de l'opposition Martin Fayoulou, mais je doute fort qu'on arrive à un certain moment où des vols vont être annulés pour empêcher certains d'accéder par exemple à leurs milliers pour battre campagne, et que même des autorisations risquent même d'être refusées à certains avions pour pouvoir amener des candidats et aller battre campagne. Donc c'est un peu la difficulté.
On n'en est pas encore là.
Voilà. Et sur le plan financier, par exemple, vous savez, chez nous ici, bon, tout le monde veut devenir politicien. Tout le monde veut devenir demain député parce qu'il semble que c'est là-bas que ça paye bien. Alors il y en a sûrement qui ont hypothéqué des maisons, qui ont vendu des biens pour pouvoir battre campagne et espérer demain se retrouver à l'hémicycle.
Et donc, la plupart de ceux qui sont en train de postuler, l'idéal pour eux, c'est faire facilement de l'argent et non pas apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société.
En tout cas, c'est difficile de voir aujourd'hui des Congolais qui accèdent au pouvoir pour pouvoir prendre en charge des besoins de la communauté. Si vous voulez quand même revenir sur d'autres difficultés, c'est par exemple la culture politique en RD Congo. Vous savez, les électeurs votent en fonction de l'appartenance ethnique, votent en fonction, par exemple, de l'argent que le candidat m'a remis. Moi, j'ai rencontré un candidat qui a commencé par faire des rentes et il dit que, même ici à Kinshasa, et que le discours ne passe pas. Les gens disent non, donne-nous l'argent.
Okay.
Il faut avoir des moyens, non pas seulement pour assurer le déplacement du candidat, pour par exemple les matériels des campagnes électorales, mais aussi pour offrir des cadeaux aux électeurs.
C'est une mauvaise pratique. Il faut reconnaître qu'en politique, il est aussi difficile d'évoluer quand on n'a pas de moyens financiers.
Tout à fait.
Nico Faye Mikaï, journaliste et collaborateur au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Et l'accès difficile à certains coins de la République pour certains candidats, comment à votre avis peut-on contourner ces difficultés? Et sinon, on va assister à une campagne inéquitable.
Non, s'il te plaît. Moi je pense que on doit savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous dites que la difficulté pour certains candidats, mais le même candidat, avant de déposer sa candidature, ne s'était-il pas rendu compte de toutes ces difficultés-là? Ou bien ne s'est rendu compte qu'après qu'il ait déposé la candidature, est-ce que qui était obligé de déposer la candidature? C'était pas obligé, il n'y avait pas d'obligation pour tout un chacun.
Vous avez tout à fait raison, mais est-ce que vous reconnaissez qu'aujourd'hui, il y a des points comme Beni, comme l'espace kassaïen, comme Ituri, où à cause de l'insécurité, les gens ont du mal à accéder à ces coins-là. Et donc les candidats qui ont postulé là-bas auront du mal à battre campagne, n'est-ce pas?
Oui, c'est une situation que personne ne peut nier. Nous le reconnaissons. Mais c'est une évidence. C'est une contrainte à laquelle nous sommes confrontés.
Alors, et à votre avis, comment on peut contourner
cette difficulté? Vous voulez maintenant aujourd'hui qu'on retarde encore les élections parce qu'il y a des postes de résistance? Les élections venaient de se passer au Nigeria, là où il y a les Boko Haram. C'est pour autant qu'on a retardé les élections. Les élections sont passées dans quelles conditions au Cameroun? Les élections sont passées dans quelles conditions en Afghanistan? S'il te plaît, moi, les cas sont les gens. Hein. C'est-à-dire, les mêmes gens qui ont fait tuer mon peuple pour les élections, aujourd'hui, ils ne sont plus pour les élections, ils veulent encore qu'on retarde les élections. Nous devons aller aux élections. Les gens, on les a dépouillés de toutes les raisons valables. Figurez-vous, Guy.
Mettez-vous, Nico Faye Kalambayi, vous continuez à parler. Mettez-vous à la place de ces candidats-là qui a postulé à Oicha, au Nord Kivu, et où les ADF sont en train de dégorger les populations tous les jours. Mettez-vous à la place de ces candidats. Comment vous allez battre campagne?
Je dis ceci. Je ne suis pas d'accord avec cette situation. Mais devant est fait accompli. Vous devez faire quoi? Qui peut accepter qu'il y ait une poche de sécurité? Mais c'est un fait accompli.
Alors, par rapport à cette difficulté, vous vous proposez quoi?
Ici,
comment contourner cette difficulté?
C'est-à-dire, l'armée doit faire son travail. Mais si ça date d'avenir, on ne peut pas encore retarder les élections pour cela. Nous avons cherché l'alternance, nous avons cherché le changement. Aujourd'hui, 31 jours nous séparent de l'alternance. Encourageons les candidats courageux qui ont eu à déposer leur candidature dans ces conditions-là. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? Les élections. La campagne a commencé. Plus question de retarder encore les élections pour une raison quelconque.
Merci. Dimanche Kamate, journaliste et reporter à la radio-télévision Mungano Oicha émettant des Beni au Nord Kivu. Les difficultés, n'est-ce pas, d'accéder à certaines parties du pays. Et vous êtes dans ces parties qui sont, n'est-ce pas, concernées par toutes ces difficultés. Vous êtes au Nord Kivu. Comment les candidats des Beni, par exemple, comptent relever ces défis?
Oui, je voudrais d'abord parler comme quelqu'un qui vivre les événements macabres de la place. Et j'étais en train de suivre les confrères sur les plateaux là-bas. Je voudrais lui dire ceci. Dans la région de Beni, la vie est presque invivable. Un candidat député qui aujourd'hui est assimilé à déplacer des guerres, il se réveille dans un petit kiosque le matin pour battre campagne. Il se réveille dans une maison où ils ont passé nuit avec une dizaine de gens. Voyez-vous, comment tel candidat va-t-il battre sa campagne? Si nous pouvons parler de réalité infrastructurelle, il n'y a pas de route bonne qui peut faciliter les déplacements. Donc, ce sont là les quelques problèmes qu'on peut évoquer. Et les candidats députés de la région de Beni, mes chers confrères, en tout cas, se retrouvent pour le moment dans une impossibilité notoire de battre leur campagne. Parce que un candidat qui s'appelle candidat député, soit député au niveau provincial ou au niveau national, mais en le voyant, lui-même est en train de frapper avec des bagages au dos, avec l'aide de ses enfants au dos, avec l'aide de ses enfants au ventre, un candidat député, un monsieur comme celui-là, vous lui demandez de présenter les moyens pour votre campagne. Comment va-t-il le faire? Et donc, si nous sommes en face des gens qui sont en train de réfléchir convenablement, si nous sommes en face d'un gouvernement responsable, j'aurais souhaité que ce gouvernement fasse tout pour rétablir d'abord la paix dans la région de Beni. Parce que la bonne tenue des élections dans la région de Beni est conditionnée par le rétablissement de la paix. Le rétablissement de la paix est une condition sine qua non. Avant-hier, j'étais au niveau de la base de la Monisco, où il y a eu une question des présidents rebelles là, de l'ADF, peut-être les amis qui sont là-bas au plateau, l'Union, j'étais là-bas. Il y a eu une bombe qui est allée tomber sur une maison où loge l'équipe de l'Ipos et contre Ebola. Il y a eu une guérite des casques bleus de la Monisco qui a essuyé des tirs. Il y a eu une voiture qui a été cantinée, trois maisons qui ont été brûlées. Face à tous ces événements macabres, voyez-vous, pensez qu'il y a moyen de mener en bien la campagne électorale. Donc le mieux serait d'abord de rétablir la paix dans la région de Beni. Parce qu'en rétablissant la paix dans la région de Beni, on aura déjà facilité à tous ces ambitieux politiques de bien mener leur campagne pour que les choses se fassent comme il faut. Mais je ne vais pas dire que nous n'avons pas besoin des élections. Nous avons besoin des élections. Mais comment faire pour que ces élections se passent bien?
Donc,
c'est ça la question qui doit interpeller le gouvernement de la RDC. Que le gouvernement de la RDC ne puisse pas pousser les citoyens de la place à croire que la région de Beni est une partie isolée, est une partie écartée de la République. Et donc, notre gouvernement de la République doit fournir les efforts pour amener ou bien pour intéresser les candidats de la place pour qu'eux aussi se sentent comme les candidats de toutes les autres provinces et qu'ils puissent aussi bien mener leur campagne pour qu'ils soient aussi un jour élus représentants du peuple et représentants celle-ci, permettez-moi la tautologie, au niveau de la chambre haute ou la chambre basse du Parlement.
Oui, vous dites qu'il faut rétablir la paix dans la région des Beni, c'est une condition sine qua non, n'est-ce pas, pour que les élections puissent se tenir dans cette partie du pays. Mais vous avez aussi proposé que l'on puisse accorder aux électeurs qui se sont déplacés, n'est-ce pas, qui ont fui la violence, et on puisse leur accorder cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir voter là où ils sont. Bon, je ne sais pas si la CENI va leur accorder cette faveur-là, mais pour les candidats, ils ne vont pas aller se faire élire là où ils n'ont pas postulé dimanche et Kamate.
Oui, monsieur Guimaté, j'étais aussi sur le confrère là-bas, le confrère qui a dit un candidat qui n'a pas de moyens, pourquoi va-t-il postuler, et ainsi de suite. Mais vous voulez dire à un monsieur qui représente valablement la population, mais s'il est pauvre, il n'est pas postulé? Je ne pense pas. Et si aujourd'hui il y a une partie des gens qui pensent qu'elle a des moyens, ce sont ces personnes-là qui ont passé beaucoup de temps en occupant des hautes fonctions au niveau de ces gouvernements. Ce sont ces gens qui ont suffisamment joué du bonus pour essayer avoir assez de moyens mener leur campagne. Moi, je souhaiterais que nous puissions aussi placer ce nouveau candidat député provinciaux ou nationaux dans de bonnes conditions d'existence, qu'il aussi se sente à l'aise, parce qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui peut aussi représenter la population. Alors, s'il n'a pas de moyens, comment va-t-il le faire? Et étant donné que la situation sécuritaire est une condition sine qua non, moi, je souhaiterais que, pas seulement dans la région de Béni, je souhaiterais que l'on puisse faciliter, l'on puisse permettre aux paisibles citoyens de bien mener leurs actions, de bien réaliser leurs activités, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient commerçants, qu'ils se sentent d'abord sécurisé. Parce qu'en se sentant sécurisé, bon, on peut aussi accéder à quelque chose qu'ils peuvent aider. Ils peuvent aussi accéder à quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans leur campagne. Donc, qu'ils soient candidats députés pauvres, qu'ils soient candidats députés peut-être riches. Bon, moi, c'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation est que nous puissions réaliser une alternance et que le meilleur représentant du peuple soit un jour observé au niveau du Parlement, merci, soit au niveau du Sénat. Parce que le goût de tout un peuple, c'est de voir les choses changer de manière positive, non pas rester en oscillant.
Merci, Dimanche. Hein,
nous aimerions que les choses puissent quand même aller de l'avant,
voilà,
et puis qu'on puisse changer la classe politique.
Merci, Kamat, on a compris. Durant toute cette période, tous les partis et groupements politiques et les candidats indépendants sont appelés à battre campagne conformément à la Constitution, à la loi électorale et ainsi qu'au code de bonne conduite. Ils sont donc tous soumis aux mêmes droits et obligations à observer durant toute cette période de campagne électorale sous peine des sanctions. Les grandes lignes du code de bonne conduite avec vous, Michel Kifindangoy.
En termes de droits, chaque candidat doit bénéficier d'une sécurité de sa personne et ses biens, de l'accès égal aux médias publics et équitable aux médias privés, ainsi qu'à la bonne information sur les élections. Chaque candidat est aussi libre d'exprimer ses convictions en public comme en privé et d'organiser des manifestations politiques quant à ceux. Il peut librement publier ou distribuer les matériels de campagne, mais aussi recevoir des dons nécessaires à la bonne marche de ses activités. Les droits des uns sont des obligations pour les autres. Tous les candidats se doivent respect mutuel. Ils doivent donc éviter des propos diffamatoires, des discours séparatistes et tribaux, ainsi que toute forme de violence et de terrorisme. Ils doivent en outre s'interdire de se servir des biens, fonds et autres moyens de l'État pour des fins de propagande électorale. Toute utilisation des biens, des finances et des personnes publiques est punie de radiation de la candidature ou d'annulation de la liste du parti ou du regroupement politique incriminé.
Merci à vous, Michel Kifindangoy, J.R. Mokolo. Chaque candidat doit une sécurité de sa personne et de ses biens, mais aussi à l'accès égal aux médias publics et équitable aux médias privés, ainsi qu'à la bonne information sur les élections. Vous pensez que cet idéal pourrait être atteint?
Oui, je crois que ce code de bonne conduite, en tout cas, est bon pour pouvoir, en tout cas, se réaliser sur terrain. Sur papier, bon, on constate qu'on a couché beaucoup de choses, beaucoup d'engagements. Mais sur terrain, on va vérifier si effectivement la RTNC va cesser en tout cas d'être l'église au coin d'un village pour se retrouver au milieu du village et traiter tous les candidats de la même façon, comme on voit par exemple les candidats de la majorité présidentielle est vraiment choyé dans les médias officiels pour lesquels tout le monde paye les impôts pour son fonctionnement. Bon, on voudrait aussi voir par exemple là où on dit qu'il ne faut pas se servir des moyens et des personnels de l'État et que quiconque le fait, il va être radié. Il y a déjà une requête qu'on a déposée au niveau de la CENI contre les candidats du FCC. Il y a des preuves palpables.
C'est l'article 36 voilà. De la loi électorale.
Il y a des preuves palpables parce que le porte-parole du gouvernement qui est un agent de l'État et membre de l'équipe de campagne, il bat campagne pour, par exemple, les candidats du FCC, le dire-cap du chef de l'État qui est payé par l'État, il est coordonne l'équipe de campagne. On peut en dire autant du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre lui-même. Donc on a pratiquement l'État congolais qui est en compétition électorale contre une partie des citoyens congolais, voilà, les combles. On va voir sur terrain si l'article 36 va véritablement être appliqué pour ceux qui, de façon visible, il y a des preuves palpables qu'ils utilisent les moyens, les personnels de l'État pour battre campagne. Je voudrais aussi insister, par exemple, sur la communication des candidats. Et bien sûr, dans ces codes-là, je suis content qu'on ait relevé, par exemple, que les gens puissent se respecter mutuellement, éviter les injures, éviter les discours discriminatoires qui risquent, par exemple, d'embraser ces pays, et risquent de créer des violences interethniques. Merci. Je crois qu'il y a de bonnes choses qui sont dans ces codes de bonne conduite qu'on peut facilement appliquer, mais merci, d'autres, comme je viens de relever, vont être en tout cas difficilement applicables sur le terrain, parce que ceux qui sont censés les appliquer, ils sont aussi partie prenante aux côtés d'une famille politique pour conserver le pouvoir.
Merci.
Malheureusement.
Nico Faye Mbikayi, l'accès égal aux médias publics, on en parle à chaque cycle électoral. Et cette fois-ci, vous pensez que tous les candidats vont accéder à ces médias publics?
Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais demander à Dimanche Kamate de clarifier son langage. Lorsqu'il dit qu'on rétablisse d'abord la sécurité, entre-temps, au moment où nous attendons le rétablissement de la sécurité, et que s'il arrivait qu'on atteigne la date du 23, qu'on fasse quoi pour les élections? Qu'on attende ou bien qu'on sollicite encore un autre report?
Si c'est à vous de faire une proposition.
Non, c'est lui qui propose, ça ne vient pas de moi. Lui dit qu'en attendant qu'on arrive d'abord à rétablir la sécurité.
Voilà, et au sujet d'accès, n'est-ce pas?
Oh non, l'accès aux médias moi, publics, je pense que non. Je préférerais que le candidat qui auront besoin d'aller s'exprimer sur le média public, qu'ils arrivent, qu'ils payent leurs factures et qu'on les refuse. Mais ça ne sert à rien de refuser ce soir et de dire que non, on nous a refusé. Est-ce que j'aimerais qu'un candidat arrive à produire une facture qu'il avait payée auprès de la RTNC et qu'on sort et puis qu'ils disent que non, on lui a refusé l'accès? Qu'au lieu de rester chez soi, je suis toujours à incriminer les gens.
Donc il faut y aller.
Il faut d'abord aller.
Merci, Dimanche Kamate.
Et ne pas rester chez soi, dire que non, on a les médias publics. Mais s'il arrive que les candidats de la majorité arrivent à produire les factures payées auprès de la RTNC, vous allez le condamner pour cela? Non. Nous sommes dans un État, la RTNC aujourd'hui, c'est un établissement de l'État qui est là pour générer des recettes. J'aimerais d'abord qu'un candidat, soit type de l'opposition, arrive auprès de la RTNC, qu'on dise clairement qu'on l'a refusé et qu'il produise la facture.
Merci,
nous ne sommes plus encore à cet état-là où il faut toujours charger, entre-temps sur le terrain. On ne fait pas le travail pour lequel on est appelé à faire. Allons aux élections.
Merci, Dimanche Kamate. Les candidats doivent s'interdire de se servir des biens, fonds et autres moyens de l'État pour des fins de propagande électorale. Et JR a commencé à les relever, utiliser les moyens de l'État, les personnels de l'État à des fins électorales. C'est un débat qui est d'actualité. Comment trancher ce débat, à votre avis?
Oui, je voudrais d'abord dire ceci. Les gens qui peuvent utiliser les moyens de l'État sont ceux-là qui sont encore au pouvoir. Un nouveau candidat, il va utiliser quel moyen de l'État qu'il n'a pas. Donc ce sont encore ces mêmes gens qui sont là-bas qui peuvent encore utiliser les moyens de l'État. Mais cela n'est pas mon souhait. Je voudrais dire ceci, pour nous qui faisons les médias, nous devons rester dans la neutralité. Nous sommes une église qui éclaire la religion, nous sommes une église, nous devons prêcher pour tout le monde. Notre mission n'est pas d'avoir des passions, nous devons donc donner la place ou l'occasion, le temps de parole à tous les candidats, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité présidentielle. Et donc, les médias doivent ouvrir la porte à tous les candidats, qu'ils soient de n'importe quelle nature. Deuxième élément, nous devons nous laisser guider par notre code d'éthique et de déontologie. Un journaliste n'est pas quelqu'un qui vient faire la face au micro, c'est quelqu'un qui a un message qu'il veut adresser à la population. Et pendant cette période de situation cruciale de la République, un journaliste doit être quelqu'un qui doit amener la population à participer massivement aux élections.
Merci Dimanche Kamate, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique et à Alain Hirung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi.